franceinter.fr.
Et redonner la parole à ceux qui ne l'ont pas ou plus, la possibilité physique de parler. Voici le projet d'un groupe de chercheurs grenoblois de l'INSERM et du CNRS, une première étape importante de ce travail de longue haleine qui vient d'être publié dans la revue PLOS ONE. Il s'agit d'un synthétiseur vocal qui permet donc de traduire en temps réel les mouvements de la bouche en son. Et pour en parler, nous recevons l'un des auteurs justement de ces travaux, Blaise Hiver. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'INSERM, au laboratoire BrainTech. Alors, expliquez-nous pour commencer à quoi ressemble ce dispositif que vous venez de mettre au point et ce qu'il permet de faire exactement.
Alors, il s'agit d'un synthétiseur vocal qui traduit, qui convertit des mouvements de la bouche, c'est-à-dire des différentes parties du conduit vocal, donc la langue, les lèvres, la mâchoire, le palais mou, et qui convertit ces trajectoires, donc c'est les mouvements au cours du temps, en paroles continues. Donc c'est comme un programme informatique qui prend en entrée des trajectoires articulatoires et qui traduit ça en paroles.
Ça fait un moment que ce type de synthétiseur est en étape de recherche dans le monde entier. Quelles sont les étapes supplémentaires qui vous permettent d'aller plus loin aujourd'hui ?
Donc c'est un synthétiseur qui a été bâti sur des réseaux de neurones à partir d'un grand corpus où on a enregistré un sujet qui parlait et on a enregistré en même temps les mouvements de ces articulateurs. On a pu construire donc un modèle mathématique qui permet de transformer ces mouvements en paroles. Et la caractéristique, c'est que ce système peut travailler en temps réel. Et on l'a du coup, inséré dans ce qu'on appelle une boucle, dans un paradigme de boucle fermée, c'est-à-dire qu'on a pris un locuteur quelconque et on lui a permis de contrôler ce synthétiseur à l'aide de ses propres mouvements articulatoires.
Ça veut dire que si vous me branchez la machine et que je parle sans émettre de son, c'est la machine qui va faire les sons que je voulais dire.
Voilà, si on enregistre les mouvements de votre langue, de vos lèvres, de votre mâchoire pendant que vous parlez, eh bien le synthétiseur, lui, va traduire ces mouvements en paroles.
Alors, on va écouter un son que produit pour l'instant votre synthétiseur. La phrase prononcée par votre collègue Thomas Huber du CNRS était « Je vais être papa, c'est une bonne occasion de vous l'annoncer ». On écoute le résultat par le synthétiseur.
Voilà, donc là on vient d'entendre « Je vais être papa, c'est une bonne occasion de vous l'annoncer hein, », c'est ça.
Oui, on a fait le test ce matin dans le bureau. C'est pas facile de comprendre de prime abord quand on n'a pas du tout le texte. Pourquoi est-ce que le synthétiseur émet un son comme ça en continu, même quand les mots se sont arrêtés ?
Alors le synthétiseur, il va moduler un signal d'excitation qui correspond au signal produit par les cordes vocales. Et le synthétiseur, lui, va modéliser le conduit vocal qui va moduler ce signal d'émission.
C'est ce qui se passe dans notre bouche ?
Voilà, c'est ce qui se passe dans notre bouche. Voilà, quand on parle, on va bouger les différentes parties de notre bouche de manière différente suivant les mots que l'on prononce. Et donc ça va moduler de manière différente les citations de nos cordes vocales.
Ouais, Blaise Hiver, ce qu'on vient d'entendre là, effectivement, est difficile à comprendre. Est-ce qu'on est aux limites pour l'instant, justement, du résultat donné par ce synthétiseur vocal hein ?
On a évalué le synthétiseur vocal lui-même permet de synthétiser de manière beaucoup plus intelligible la parole. Ce qu'on a entendu là, c'est lorsque un sujet le contrôle en temps réel. Donc il y a un gros travail à faire pour améliorer la manière de contrôler ce synthétiseur à partir des données physiologiques.
Il y a quand même une question que les gens doivent se poser en nous écoutant, c'est pourquoi utiliser les mouvements de la bouche si votre but à terme c'est de retranscrire directement l'activité cérébrale sous forme de son ?
Alors voilà, donc le projet à très long terme, donc on commence tout juste en collaboration donc avec le CHU de Grenoble aussi, c'est d'essayer de traduire les signaux du cortex pour contrôler ce synthétiseur. Et dans notre cerveau, dans notre cortex, il y a des zones au niveau du cortex moteur notamment qui contrôlent les articulateurs de notre bouche. Et donc si on veut on peut espérer à terme en fait enregistrer les activités des neurones qui sont dans ces zones et leur travail à ces neurones étant de contrôler les articulateurs, eh bien, on pourrait prédire des trajectoires d'articulateurs à partir des activités de ces neurones.
Est-ce que ça veut dire qu'il faudra imaginer articuler pour pouvoir utiliser le dispositif ?
Voilà, ce sera le but. Donc on sait que quand on imagine faire un mouvement, notre cortex moteur s'allume, un petit peu comme quand on effectue vraiment le mouvement. Donc on peut imaginer que lorsqu'on va imaginer parler, on va activer les zones qui contrôlent notre production de parole, notre production motrice. Et il y a d'ailleurs pas mal de travaux qui commencent à avoir validé ça de manière expérimentale, en enregistrant avec différentes techniques des sujets qui parlent vraiment ou qui imaginent parler, et on s'aperçoit qu'il y a des zones très très proches qui sont actives.
Ouais, Blaise Hilaire, très vite, quelle est la différence entre votre dispositif et celui utilisé par le physicien Stephen Hawking pour communiquer ?
Alors, donc nous, on enregistre vraiment les mouvements de la langue, de la bouche. Donc, on n'est pas du tout dans le même type de synthétiseur qu'un détecteur de mouvements oculaires ou de mouvements résiduels qui peuvent exister par ailleurs.
Bon, en tout cas, beaucoup de promesses autour de ce synthétiseur vocal.
C'est un projet de longue haleine.
Ouais, absolument, mais on le comprend, avec déjà en tout cas des résultats probants, et ces résultats publiés dans la revue PLOS ONE cette semaine. Merci beaucoup à vous, Blaise Hiver. Et puis on se retrouve demain, Axel Villard.
Merci à vous.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le paludisme qui aurait pu jouer un rôle dans la chute de l'Empire romain. Des chercheurs italiens et australiens ont trouvé des traces d'ADN mitochondrial du parasite Plasmodium dans des squelettes datant de la Rome antique, même s'il est compliqué de trouver de l'ADN utilisable, car le parasite se décompose au fil du temps, eh bien les chercheurs sont tout de même parvenus à reconstituer plus de la moitié du génome. Dire que le paludisme est responsable de la chute de l'Empire romain reste difficile, selon les chercheurs, mais on sait maintenant qu'il a causé la mort, en tout cas de beaucoup de Romains, à la fin de l'Antiquité. Quand la supernova était en fait un trou noir géant tournant sur lui-même, en 2015, des télescopes au Chili et à Hawaï avaient enregistré un énorme flash lumineux dans le ciel, et les scientifiques avaient décrété à l'époque que c'était certainement la plus grosse supernova jamais observée sur Terre, avec une brillance supérieure, l'espace de quelques secondes à l'ensemble de la Voie lactée. Et bien aujourd'hui, de nouvelles analyses de données révèlent un phénomène encore plus rare et impressionnant. Un trou noir 100 millions de fois plus massif que notre Soleil aurait avalé une étoile sous nos yeux. Mais fait exceptionnel, ce trou noir était en rotation sur lui-même au moment de l'engloutissement, d'où le flash lumineux. C'est la première observation de ce type et les premières données permettant d'étudier finement la rotation des trous noirs. Et puis pour terminer, les chimpanzés qui reconnaissent les fesses de leurs congénères exactement comme nous reconnaissons les visages humains. Cette drôle de conclusion nous vient des Pays-Bas, où des chercheurs ont mis en concurrence des humains et des chimpanzés dans une épreuve de mémorisation d'images. Les clichés présentés étaient soit des visages, soit des pieds, soit des fesses d'humains et de chimpanzés, bien entendu. Eh bien, ils démontrent en finalité que le traitement configural que l'on connaît chez l'homme pour l'analyse des visages est présent aussi chez le singe, mais pour l'analyse des fessiers. Les chercheurs suggèrent que notre très bonne capacité à différencier les visages serait d'une ancienne capacité à différencier la qualité des fessiers.